20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Non, les grandes civilisations, celles de Méditerranée, Rome, Grèce, Égypte, ou plus lointaines, Mésopotamie et Indus, ne sont pas l'exclusive des archéologues, loin de là. Bien moins connue s'opère aussi une archéologie des marges, ou que l'on imagine être des marges. Ainsi ce soir, plutôt que d'évoquer l'Égypte et ses pharaons, le magazine d'archéologie de France Culture s'intéresse à l'étonnant passé de la Nubie. Pour en parler, un incontournable spécialiste, épigraphiste et archéologue, Claude Rilly. Bonsoir.
Bonsoir.
Chargé de recherche au CNRS, vous êtes ancien directeur de la section française de la Direction des Antiquités du Soudan, basée à Khartoum, et dirigez les fouilles françaises de Sede Inga, nous en reparlerons. Vous venez surtout de rédiger la plus grande partie d'un énorme ouvrage, plus de 1000 pages, intitulé « Histoire et civilisation du Soudan », paru aux éditions Soleb. Soyons choc, Claude Rilly. On connaît les pyramides de l'Égypte, mais bien mieux, dans votre Soudan, tout le monde avait sa pyramide.
Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a un petit peu de vérité là-dedans, dans la mesure où il y a beaucoup plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. Sauf qu'elles sont beaucoup plus petites et en matériaux beaucoup plus périssables, puisque la plupart d'entre elles, à part les pyramides royales qui sont en grès, la plupart d'entre elles sont simplement en briques crues. Alors pour donner un exemple, à Sede Inga, le site que je fouille, nous avons une dizaine d'années exhumé quelques 77 pyramides. On avait même eu un article dans New York Times il y a quelques années, à ce moment-là on en avait exhumé 36, et donc les gens s'imaginaient que c'était quelque chose comme 10 fois Gizeh. Bon, c'est pas du tout ça. La plus petite des pyramides que nous avons fait 80 cm de largeur et devait difficilement s'élever au-dessus d'un mètre, et elle était d'ailleurs conçue pour abriter donc la tombe d'un enfant. Tout le monde n'a pas forcément sa pyramide. Dans le secteur napatéen où nous sommes, donc je vous ai dit, nous avons exhumé 77 pyramides. Il y en a 100 en tout, en comptant les fouilles qui avaient précédé dans cet endroit. À peu près 200 sur l'ensemble de Sede Inga, mais ça correspond à peu près au quart de ce que nous attendons à trouver.
On ne peut pas parler du Soudan sans évoquer les fouilles de Kerma. Kerma, bien sûr, fouillée par Charles Bonnet et avec ses fameux balais suisses.
Oui, c'est balai LAI, effectivement. C'est une fouille où il reste pratiquement que des arases, et donc il est nécessaire de dégager le moins possible, effectivement, en balayant le sol, pour arriver à trouver les traces des briques. Là aussi, nous avons une architecture qui est en briques crues, et même parfois dans une sorte de pisé qu'on appelle le galous, et qui date donc de 2500 pour les plus anciennes attestations, jusqu'à à peu près 1500 de notre ère. C'est donc ce royaume de Kerma qui est le premier état soudanais, historiquement connu, et aussi le premier état africain. Alors, c'est un état qui ne dispose pas d'une écriture, comme plus tard ce sera le cas de Méroé, mais il dispose d'une administration. On sait très bien que de grands royaumes, de grands empires ont pu exister sans écriture. On pense par exemple aux Incas. Et bien, de la même manière, le royaume de Kerma, qui a donc régné sur le Haut Nil et a menacé d'ailleurs l'Égypte pendant près de 1000 ans, ce royaume de Kerma se continuera après une période de transition donc correspondant à 7 siècles de colonisation égyptienne, dans les royaumes de Napata et de Méroé dont nous allons parler.
En 730 avant notre ère, ce que l'on appelle les rois de Kouch régnèrent sur l'Égypte. Nous voici devant la 25e dynastie. C'est une chose que l'on ne sait absolument pas.
Ça dépend. C'est vrai qu'en France, les civilisations anciennes du Soudan sont assez mal connues. En Allemagne, par exemple, où je donne souvent des cours et des conférences, c'est quelque chose qui est plus connu. Mais bon, j'espère qu'avec notamment le livre que nous avons fait paraître, on parlera un peu plus de ces pharaons noirs qui ont régné sur l'Égypte pendant 70 ans. C'est une période de retournement complet, puisque pendant, je vous ai dit, pratiquement 7 siècles, et plus d'ailleurs si on inclut le Moyen-Empire, mais à ce moment-là, les pharaons égyptiens ne dominaient pas plus loin que la deuxième cataracte, eh bien, l'Égypte a gouverné cette colonie dont elle faisait venir des produits importants, des esclaves, etc. Et ensuite, les choses se sont totalement retournées et le colonisé est devenu en quelque sorte colonisateur, puisque pendant 70 ans, se sont succédés une demi-douzaine de rois, dont le plus connu est le pharaon Taharqa, ou Taharqo, peut-être qu'il était prononcé dans sa langue, qui a construit pratiquement autant que Ramsès II, et notamment en Égypte. Et sur mon site, moi-même, d'ailleurs, j'ai pu trouver la trace de Taharqo lui-même.
D'ailleurs, la Nubie repense même la dualité entre Basse et Haute-Égypte et parle désormais de Couche et Égypte, c'est bien ça ?
Oui, oui. Disons que la domination couchite en Égypte s'est faite très probablement avec l'aide du clergé de Thèbes. Et que du coup, on recourt quand même à des concepts, c'est quelque chose qui est très intellectualisé, où on va tâcher de montrer qu'il ne s'agit pas d'une domination étrangère, mais que Couche est en quelque sorte le nec plus ultra de l'égyptianité. D'ailleurs, le berceau des rois couchites, le Djebel Barkal, était considéré depuis assez longtemps comme une des demeures du dieu Amon. Donc il était normal que les rois qui possédaient donc cette montagne où habitait Amon soient également rois de l'ensemble du Nil, Égypte comprise.
Et d'ailleurs, le pharaon aura deux cobras sur la tête au lieu d'un d'habitude
oui.
En Égypte.
Alors quand on dit le pharaon, il s'agit donc de ces pharaons noirs, donc de ces pharaons couchites de la 25e dynastie, qui se font représenter effectivement avec deux cobras, l'un pour l'Égypte et l'autre pour Couche. Alors pourquoi le sait-on ? Eh bien, tout simplement parce que les successeurs égyptiens durant la 26e dynastie, qui a, après un intermède assyrien qui a repoussé les couchites sur leurs frontières originelles, les pharaons indigènes, donc de la 26e dynastie, on connaît les noms par exemple de Psamétique ou de Nekao, ont fait marteler le deuxième Uréus, l'Uréus c'est ce cobra royal, afin de leur dénier toute domination sur le pays égyptien, tout en reconnaissant celle qu'ils ont sur Couche.
La Nubie, le Soudan sont avant tout une exceptionnelle voie commerciale reliant deux mondes, bien sûr, la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne.
Oui, notamment parce que avant le Haut Moyen-Âge, sur le côté occidental de l'Afrique, il n'y a pas véritablement de possibilité de pénétration. Il faudra attendre que le chameau, donc au Haut Moyen-Âge, se répande dans le Maghreb pour que véritablement on puisse avoir des communications plus importantes. En gros, jusqu'à cette époque-là, ce qui est connu de l'Afrique subsaharienne l'est par la vallée du Nil, qui est en fait le seul couloir qui permette donc de relier le monde méditerranéen et l'Afrique subsaharienne en évitant donc cette barrière que constituait le Sahara. De Couche a donc servi à acheminer l'ensemble des produits que l'on trouvait en Afrique, pas seulement les produits, par exemple la plupart, quasi-totalité des esclaves noirs que l'on trouve dans le monde méditerranéen, qui sont souvent représentés notamment chez les Grecs, sont venus par Couche. Ils ont été très probablement radiés et revendus dans le monde méditerranéen. Nous avons d'ailleurs des textes des rois napatéens, qui sont parfaitement compréhensibles puisqu'ils sont écrits en égyptien, qui nous décrivent ces radzias à la fois de bétail et de gens qui se font sûrement dans les profondeurs du Kordofan, c'est-à-dire de l'ouest du Soudan.
C'est bien sûr aussi l'or, l'ivoire, la peau de panthère, mais aussi l'ébène que l'on retrouve dans une extraordinaire épave de l'âge du bronze, sombrée au large de la Turquie ou le Bodrum.
Oui, oui, oui. Cette épave donc faisait route probablement vers la Grèce et amenait des matériaux ainsi que des objets finis qui venaient non seulement d'Égypte. Par exemple, il y avait une petite bague avec le nom de Néfertiti, ce qui permet un petit peu de situer tout ceci au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Mais il y avait également des billes d'ébène qui ne pouvaient venir de nulle part ailleurs que du Soudan. Hein. Et au Soudan même, l'ébène, c'est ce qu'on appelle le faux ébénier, hein, le véritable ébène poussant lui du côté de Ceylan, etc. Ce faux ébénier était extrêmement prisé des rois égyptiens et se trouvait très probablement au Darfour et au Sud-Soudan.
Vers 1550 avant notre ère, le royaume de Kerma s'effondre, un nouveau royaume se développe, Napata. Cette culture est un mélange de traditions indigènes et d'influences égyptiennes.
Oui, tout à fait. Alors ces influences égyptiennes, elles viennent justement de la colonisation qu'il y a eu entre les deux. Le royaume de Kerma s'effondre, mais en fait c'est un effondrement extrêmement long. On sait maintenant que le royaume de Kerma a résisté pratiquement une centaine d'années, avec des périodes où certains de leurs potentats ont pu reprendre du terrain sur les Égyptiens. Et ce n'est guère qu'avant l'époque d'Hatshepsut, donc vers 1450, que ce territoire est conquis, alors que c'était 100 ans plus tôt qu'on avait commencé sa conquête sous le pharaon Amosis. Cette domination égyptienne va s'étendre jusqu'à la fin des Ramessides, c'est-à-dire à peu près vers l'an 1000. Après, on ne sait pas très bien. Il y a une période obscure où on a quand même des vice-rois de couche, c'est-à-dire des gouverneurs coloniaux, mais on n'est pas très certain que ça corresponde à une réalité quelconque et non pas simplement à un titre. Alors si effectivement ça correspond à une réalité, on va jusque le début du 8e siècle. Si en revanche, comme je le crois volontiers, c'est quelque chose qui n'est plus qu'un simple titre vide, on va à peu près jusque au 10e siècle, et c'est effectivement une longue période qui explique que le royaume qui va se développer est complètement imbibé de culture égyptienne, aussi bien en ce qui concerne la religion que l'administration, et que même l'organisation de l'armée dans laquelle ils vont absolument exceller, au point de dépasser les Égyptiens. Et le premier roi qui a conquis l'ensemble du territoire égyptien, qui s'appelle Pianki, nous a légué donc une stèle retrouvée au Jebel Barkal, donc le haut lieu de la culture soudanaise ancienne, mais qui se trouve au musée du Caire. Hein. Donc les Égyptiens qui se plaignent très volontiers d'avoir qu'on leur ait pillé leur trésor et qu'on les retrouve à Berlin, au British Museum ou ailleurs, gardent ce qui est la preuve irréfutable de la domination du Soudan pendant 70 ans sur l'Égypte.
En tout cas, votre mission française du ministère des Affaires étrangères fouille donc justement cette période au travers de tombes.
Oui, nous sommes donc sur un site provincial, mais qui n'est pas sans importance, et qui couvre les périodes depuis Napata jusqu'à la fin de Méroé. Alors quand je dis qu'il couvre ces périodes, il s'agit de la nécropole. Mais il faut savoir que le site abrite également un temple égyptien, le temple bâti par le roi Amenhotep III pour sa grande épouse royale, la reine Tiyi. Et c'est donc par l'intermédiaire...
Dont il ne reste pas grand-chose d'ailleurs.
Oh, mais on a fait pas mal de travail cet an dernier. Ça fait 4 ans que nous avons eu un mécénat pour pouvoir avancer les travaux qui n'avaient pas pu être faits avant, d'ailleurs, sur ce temple. Et si vous y allez un de ces jours, vous verrez que nous avons fait du très beau travail. Alors, donc, effectivement, pour en revenir à cette nécropole, la nécropole que nous fouillons est assez curieuse, parce que la partie où nous sommes, le secteur 2, s'est révélée totalement napatéenne en ce qui concerne son bâti. C'est-à-dire que les pyramides que nous avons sont toutes des pyramides qui datent du 5e, 4e siècle de notre ère. Et en revanche, toutes les inhumations que nous trouvons sont méroïtiques. C'est-à-dire que nous trouvons des stèles écrites en méroïtique, nous trouvons des poteries qui sont méroïtiques, et donc en fait qui témoignent de la réutilisation, et une réutilisation qui n'est pas juste de commodité, hein, mais il s'agit de s'inscrire au plus près de leurs ancêtres.
Claude Rilly, qu'est-ce que vous avez dans les pyramides que vous fouillez?
Plus grand-chose, parce que, bâtir une pyramide, c'était pas forcément une très bonne idée si on voulait préserver le trousseau funéraire. Hein. D'ailleurs, les Égyptiens l'avaient compris, puisque à partir de la 18e dynastie, les rois ne se font plus construire de pyramides, et qu'à partir de la 20e dynastie, les privés non plus n'en font plus construire. Mais les Soudanais anciens ont repris cette tradition avec le même résultat, c'est-à-dire que là où il y a une pyramide, les pilleurs savaient exactement où creuser pour trouver le trésor, essentiellement d'ailleurs des parures, des bijoux, dont certains effectivement précieux et qu'on ne retrouve pas. Nous, tout ce que nous trouvons actuellement, ce sont...
Qu'on peut voir à Berlin. Il y a une très belle série à Berlin.
Oui, à Berlin et à Munich, puisque c'est le trésor de la reine Amani Charetto, qui avait été trouvé par Ferlini en 1830, était divisé entre ces deux musées. Donc nous n'avons pas de choses aussi belles, mais nous avons quand même pas mal de restes que nous ont laissés les pilleurs, qu'il s'agisse de céramique, qu'il s'agisse... Tout récemment, nous avons fait restaurer en France un linceul... Enfin, c'est pas vraiment un linceul, c'est une toile qui couvrait un sarcophage et qui est totalement inspirée des momies égyptiennes tardives, des cartonnages de momies. Et c'est quelque chose d'absolument unique que je viens de rendre il y a quelques mois au Musée national du Soudan.
La civilisation de Méroé n'apparaît que vers 300 avant notre ère. Agatharchide de Cnide, Diodore de Sicile relatent le mythe de création.
Oui, alors. C'est quelque chose qui a longtemps passé pour être une réalité historique indubitable. Les premiers historiens de Méroé, je pense à par exemple à Reisner, l'américain Reisner, dans les années 1910-1920, le prenaient pour argent comptant. Hein. L'idée, c'est que les prêtres avaient pris tellement de pouvoir dans le royaume de Napata... Hein, qu'ils avaient la totalité du pouvoir et s'ils entendaient se débarrasser d'un monarque un peu trop encombrant, ils n'avaient qu'à lui ordonner de se suicider. Et un nouveau roi serait arrivé qui, lui, aurait été éduqué à la grecque à la cour de Ptolémée II et qui ne l'aurait pas entendu de cette oreille hein, et qui aurait mis à mort les prêtres en rentrant armé dans le temple d'Amon. Et donc, à partir de là, il aurait créé une royauté selon son désir. Mais bon, ce personnage qui s'appelle Ergamenès, qui est un personnage historique, effectivement, le premier roi à être enterré à Méroé, c'est Arcamani Ier, c'est probablement Ergamenès, l'Ergamenès de Diodore de Sicile. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le culte d'Amon, par exemple, n'a pas du tout varié, hein, et que derrière le récit de Diodore de Sicile, peut-être d'Agatharchide de Cnide, nous n'avons pas conservé les écrits, hein, il est tout à fait possible que on ait plutôt ici un discours à usage interne sur l'opposition entre la philosophie grecque et puis la superstition, la déicide d'Ammonia.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Claude Rilly, dans cette société, quelle est la place des femmes, notamment des candaces, dont le statut semble peu clair?
Oui, effectivement. Ces candaces, on les repère donc lorsque on visite les sites méroïtiques à leur forme généreuse. Hein. Si vous visitez par exemple le site de Naga, vous avez le grand temple du lion devant lequel se trouve le couple royal. Donc d'un côté le roi Natakamani assommant les une grappe d'ennemis qu'il tient par leur chevelure donc de sa massue, et de l'autre côté la reine Amani Toré. Représentée véritablement comme une femme avec des rondeurs extraordinaires, hein, tient pareillement une grappe d'ennemis et les frappe de sa massue. Donc vous avez véritablement une sorte d'équivalence entre le roi et la candace. Hein. Alors pendant longtemps, on a pensé qu'en fait, Natakamani et Amani Toré étaient mari et femme, voire éventuellement aussi frères et sœurs, hein, comme ça arrivait par exemple sous la dynastie ptolémaïque. Hein. Et puis, assez récemment, j'ai revu un graffito démotique qui citait un roi et une reine inconnus dans un temple, le temple de Daka, un temple égyptien, Daka, qui se trouve donc très au sud de l'Égypte. Et en fait, il s'avère qu'il s'agit de Natakamani et d'Amani Toré, qui est donc désignée comme sa mère. Donc la Candace, c'est probablement toujours la mère du roi. Et d'ailleurs, dans quelques extraits que nous avons d'Agatharchide de Cnide, dans des scolies du Nouveau Testament, des Actes des Apôtres, nous avons effectivement les mentions que la Candace est le nom de la mère du roi. Hein. Alors, comment peut-elle exercer le pouvoir alors que lui l'exerce aussi de plein droit? Ça, ce n'est pas totalement élucidé. Ce que l'on peut dire de manière certaine, c'est que ces Candaces ne sont pas seulement mères des rois, mais elles sont souverains. Le terme méroïtique, qui d'ailleurs n'a pas de masculin ni de féminin, leur est appliqué. Et on a donc une grosse différence avec ce qui se passe en Égypte, où on connaît des reines fameuses, les Hatshepsut, les Cléopâtres, mais qui sont toutes arrivées au pouvoir, en fait, en tant que régentes ayant usurpé le pouvoir de leur fils. Ici, la Candace a un pouvoir de plein droit. Et on sait qu'on est dans une civilisation qui a un principe matrilinéaire. On est roi parce qu'on descend par les femmes de sang royal. Hein, alors qu'en Égypte, on est roi parce qu'on est fils de roi.
Venons-en à cette langue et ces hiéroglyphes africains. Depuis 1911, l'écriture méroïtique est déchiffrée. Pourtant, on n'y comprendrait encore pas grand-chose.
Bon, vous exagérez encore, hein. Ça dépend des textes, hein. Il y a quelques textes où véritablement je rame. Mais les textes funéraires, par exemple, nous avons trouvé deux très beaux textes cette année à Sedeinga, assez longs, hein, l'un sur un linteau de chapelle funéraire et l'autre sur une stèle. Bon, à peu près tout est compréhensible. Hein. Mais il s'agit effectivement des textes qui sont les mieux balisés. Hein. Et lorsque il y a quelques passages qui posent problème, ben justement, dans la mesure où le contexte est à peu près connu, c'est beaucoup plus facile, en fait, de progresser à partir de ces textes-là que à partir de textes qui sont totalement obscurs pour nous. Hein. Mais je dirais que, bon, je vais pas parler en termes de pourcentage, mais dans les textes funéraires, on comprend 95% des mots et de la syntaxe. Dans les chroniques royales, on a beaucoup progressé, mais la compréhension ne dépasse pas, à mon avis, 25 à 30%.
Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons avec Claude Rilly, archéologue et épigraphiste au CNRS, Méroé et les civilisations du Soudan. Quelle est donc l'origine de cette langue? Ce que l'on appelle le camito-sémitique, l'afro-asiatique par exemple?
Ah non, surtout pas. Surtout pas. Pendant très très longtemps, hein, on a voulu justement que cette langue appartienne à la famille, donc la famille qu'on appelle aujourd'hui afro-asiatique, qu'on appelait avant camito-sémitique, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas exactement la même chose, mais bon, peu importe. Cette famille comprend des langues prestigieuses anciennes, comme l'égyptien ancien, comme le babylonien, l'arabe, l'hébreu, etc. Et pendant très longtemps, notamment à un moment où la science, au début du XXe siècle, était volontiers raciste, eh bien, on n'imaginait pas qu'une civilisation qui possède une écriture, qui bâtissait des pyramides, qui avait une administration qui était suffisamment puissante pour avoir tenu la dragée haute à l'Égypte, puisse être une civilisation purement africaine. Et l'idée que la langue soit en quelque sorte un peu blanche, hein, a arrangé évidemment les gens. Et puis, bien entendu, les choses ont changé depuis, et on sait maintenant, notamment, bon, après une dizaine d'années de mes travaux, hein, on sait maintenant que la langue appartient à une famille qu'on appelle nilo-saharien, et à l'intérieur de cette famille, à une famille plus réduite que j'ai appelée le soudanique oriental nord. C'est un petit peu long, on peut dire son si vous voulez en abréger. La langue la plus connue parmi le son, à part le méroïtique, c'est le nubien, qui est parlé aujourd'hui aussi bien aux alentours d'Assouan que dans le Darfour.
Il y a aussi le nara et deux autres langues parlées dans le Darfour, c'est bien ça?
Oui, et plus deux autres langues parlées dans les monts Nouba. Hein. Le nara, oui, c'est une langue d'Érythrée. Toutes ces langues sont des petites langues. Hein. Le nara, c'est 70 000 locuteurs. Certaines des langues sur lesquelles nous travaillons, je parlais de deux langues des monts Nouba, l'Afiti, par exemple, l'un des deux, c'est 3 000 locuteurs. Donc ce sont des langues qui sont mal connues, qui sont souvent peu décrites, et donc je fais un énorme travail, à la fois moi-même et par l'intermédiaire d'étudiants, pour essayer de recenser ce qu'on ce qui peut l'être de la grammaire et du vocabulaire de ces langues avant qu'elles disparaissent.
Claude Rilly, toutefois, vers 300 avant notre ère, Méroé se dote d'une écriture. Est-ce de nouveau un emprunt ou une écriture originale ?
Bon, il n'y a pas beaucoup d'écriture totalement originale qui était créée sur Terre. Je me souviens bien, il doit y en avoir 7 en tout, hein, comptant l'île de Pâques, etc. Bon, là, non, c'est pas une création originale dans la mesure où les signes sont empruntés à l'égyptien. Mais en revanche, ce n'est pas du tout le même système que l'égyptien. L'écriture égyptienne est une écriture extrêmement complexe qui mêle à la fois l'aspect logographique, c'est-à-dire on va représenter un mot par un signe, mais également la phonétique, plus des signes qui vont en plus expliquer à quelle catégorie de sens on a affaire. Enfin, c'est vraiment extrêmement complexe. Il y a des centaines et des centaines de signes, hein, à peu près 600 signes en égyptien classique. Hein. Le méroïtique va donner un grand coup de balai là-dedans, hein, et se dote d'une écriture qui est purement phonétique. Alors, elle n'est pas, comme on l'a cru, alphabétique. Effectivement, il y a 23 signes plus un séparateur de mots. Ça ressemble beaucoup au compute qu'on trouverait pour le grec, par exemple, avec ses 24 signes, ou le latin avec ses 26 signes. Mais c'est en fait un alphasyllabaire, hein, c'est-à-dire un système qui marche un petit peu comme l'écriture indienne.
On a très peu de textes par rapport à l'Égypte, hein, et c'est visiblement très difficile à décrypter.
Alors oui, on a peu de textes, c'est vrai. Actuellement, le nombre de textes qui ont été découverts et publiés est à peu près de 2000. Bon, mais certains sont très longs tout de même. Je dirais que si le Hittite, si on comptait chaque document Hittite, on arriverait à peu près au même à la même quantité de corpus. Et on considère pas que le Hittite est une langue qui soit très mal représentée. Donc effectivement, on a pas énormément de textes, mais beaucoup de ces textes sont longs. Il y a beaucoup de variétés dans les textes. On trouve aussi bien des contes administratifs que des chroniques royales, que des textes funéraires, que des textes magiques. Donc effectivement, par rapport à l'Égypte, c'est beaucoup moins et on rêve de retrouver une jarre qui soit pleine de papyri, par exemple, parce qu'on sait que l'écriture a été utilisée sur papyrus, mais on possède très très peu d'entre eux.
Posséderions-nous, bien entendu, sans le savoir, des mots méroïtiques dans la langue française ?
Ah oui, c'est assez probable. Peut-être pas beaucoup, mais il me semble que nous avons... par exemple, le mot girafe, hein. On ne possède pas vraiment en méroïtique, c'est un petit peu compliqué, hein, ici, mais en tout cas, il est bien attesté en nubien et dans la famille à laquelle appartient le méroïtique, sous une forme sarab, hein, qui a été reprise par la suite en nubien, hein, et probablement du nubien, elle est passée en arabe, puisque les seules girafes qui étaient connues dans le monde méditerranéen l'étaient par le canal du Nil, en quelque sorte. Hein. Et d'ailleurs, plus tard, lorsqu'une girafe sera offerte par Mehmet Ali à Charles X, eh bien, elle viendra du Kordofan et elle remontera, en fait, par la vallée du Nil également. Alors, un autre mot, c'est probablement le mot qui désigne l'ivoire. Hein. L'ivoire, en latin, ébour, hein, correspond au nom abour de l'éléphant en méroïtique. Alors, en égyptien, on a bien abou, mais le R s'expliquerait absolument pas. Je pense que l'égyptien est emprunté au méroïtique dans ce cas-là, hein, ou à une langue apparentée.
En deux mots, Claude Rilly, Méroé, sombre vers le 4e siècle, s'enfonce dans les sables et disparaît.
Oui, on ne sait pas grand-chose sur la disparition de la langue méroïtique elle-même, hein, un peu plus sur les États qui lui ont succédé, c'est ce qu'on appelle la période post-méroïtique, où l'on voit donc un peuple arriver du Kordofan, de l'Ouest, s'emparer du territoire de Méroé. Ce peuple sont les Nubas, et c'est eux qui vont donner leur nom à la Nubie.
Claude Rilly, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, Histoire et civilisation du Soudan, publié aux éditions Soleb. Carbone 14 était réalisé par Jean-Christophe Francis, à la technique, Julien Douminc, et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site franceculture.fr, où vous trouvez plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se penche sur l'archéologie des temps contemporains. Nous partirons en Normandie pour découvrir les traces de la Seconde Guerre mondiale.